Chapitre 54. L'orage. Les jours s'écoulèrent, et le temps, que nous suivons dans ce récit dans l'ordre même où se déroulèrent ces aventures d'antan, nous ramène à l'époque où le chevalier de Capestan, rôdant autour de la Bastille, délivra le marquis de Saint-Mars et arracha Marion de Lorme aux griffes de Richelieu. La fin de l'hiver ne fut pas heureuse pour notre aventurier. Il dit, quelque part dans ses mémoires, que cette époque de sa vie fut grise comme un jour de pluie. Dans les premiers temps de son retour à Paris, après l'expédition à Effiat, il mit une sorte d'acharnement fébrile à rechercher celle qu'il considérait comme la dame de ses pensées. Puis, peu à peu, le découragement s'empara de lui, il cessa de chercher. Le pauvre chevalier finit donc par se dire que Gisèle d'Angoulême avait dû gagner quelques provinces avec son père. Il s'affirma que, depuis longtemps, sans doute, elle ne pensait plus à lui, et lui-même ne pensa plus à elle. Ou, du moins, il le crut sincèrement. L'hiver acheva donc de s'écouler, puis le printemps reparut, les premières feuilles se montrèrent sur les haies. Cogolin engraissait. Vers ce moment, Capestan s'aperçut que, en même temps que la neige, sa bourse avait fondu. Les 300 pistoles qu'il avait eues, grâce à la démonstration du coup de nombril fait à M. de Bouteville, tiraient à leur fin. Cogolin, qui était pratique, fit un soir remarquer au chevalier, avec une certaine inquiétude, qu'il ne restait plus qu'une trentaine de pistoles. « Je crois qu'il est temps de vous remettre à faire fortune, monsieur le chevalier, sans quoi, moi, qui, depuis quelques semaines, me glorifie du nom de la chance, je pourrais bien être forcé de m'appeler encore la guigne. » « C'est pourtant vrai, soupira le chevalier, que je suis venu à Paris pour faire fortune. » « Ah, monsieur, si vous aviez voulu, si vous le vouliez encore, que ferais-je, voyons ?»« C'est que monsieur le chevalier a juré de m'arracher la langue si je lui parlais encore de cela. » »« Eh bien, parle. Pour ce soir, je te donne licence de débiter tes sornettes, mais verse-moi à boire. » « Voici, monsieur, dit Cogolin en emplissant le gobelet de son maître. Vous vous rappelez la chance que vous avez eue au tripot de la rue des Ursins ?»« Oui, mais grâce à tes conseils, je retournai il n'y a pas plus de 15 jours dans ce même tripot et j'y perdis 40 bonnes pistoles, imbécile !»« Voilà où je vous attendais, monsieur, s'écria Cogolin triomphant. Je ne savais pas alors ce que j'ai appris depuis. » « Et qu'as-tu appris ?» Il y a sur le pont au change un digne homme de sorcier qui vante un moyen infaillible de gagner au jeu. On m'a assuré qu'il a fait gagner un soir plus de 1000 pistoles à un gentilhomme, rien qu'en marmottant je ne sais quelle prière, à Dieu ou au diable. Le pont au change, murmura Capestan qui tressaillit en songeant à cette soirée où il avait été attaqué par des spadassins justement au sortir du tripot, et où il avait pu se réfugier dans une maison d'où il était sorti si étrangement par la fenêtre donnant sur le fleuve. « Oui, monsieur, le pont au change. Le sorcier s'appelle Lorenzo. J'irai le trouver et... »« Tais-toi !» interrompit Capestan, assombri par ses souvenirs. « N'empêche que j'irai un de ces jours trouver le sorcier, » grommela Cogolin. « Ah, si monsieur le chevalier voulait... » « Voulez-vous que je vous arrache votre maudite langue, monsieur le drôle? Brossez mon chapeau, vous ferez mieux, car j'ai à sortir. » Notre aventurier, ayant ceint son épée, laissa Cogolin à la bonne encontre et se dirigea vers le centre de Paris, non pour y chercher un tripot, non pour y tenter la fortune, mais par simple curiosité de voir ce qui se passait. Il arpentait donc la chaussée à grands pas furieux, regardant de travers les passants qui avaient quelque velléité de s'étonner et se gourmandant à lui-même avec ce luxe d'épithètes diffamatoires dont il se gratifiait parfois, disant son fait à la fortune qui se faisait tirer l'oreille pour lui sourire et oubliant d'ailleurs que cette fortune l'avait étrangement favorisée en le protégeant jusque-là contre les recherches de Concini. « Faire fortune » grondait-il. « Elle est jolie, la fortune que j'ai faite !»« Ah oui, on en parlera de toi, Capestan, mais pas comme tu voulais. Quand on voudra citer un hableur, un vantard, un bélitre, incapable de modérer sa langue, un fier à bras qui menace d'avaler le monde et qui n'est pas même capable de manger son pain, on parlera d'Adhémar, de Trémazin, de Capestan. Capitan, misérable capitan de comédie. Ils te l'ont tous dit, tous. Le roi, Concini, Rinaldo, les sbires, Angoulême, Richelieu, Guise, Condé, Saint-Marc, tous, tous. Pour tout Paris, tu n'es que le capitaine. » Il poussa un profond soupir et donna une violente bourrade à quelqu'un qui venait de l'effleurer en passant. « Corbac, qu'avez-vous donc dans les yeux, monsieur l'impertinent ?» Le quelqu'un s'éloigna en haussant les épaules et en murmurant « Capitaine, va !» L'aventurier, qui ce soir-là ne cherchait que plaies et bosses, allait s'élancer pour demander aux passants raison de son haussement d'épaules, mais le mot de « capitaine », qu'il entendit très bien, le cloua sur place. « Capitaine, les passants même qui ne me connaissent pas m'appellent capitaine. C'est bien fait, il ne me reste vraiment qu'à aller trouver le sieur Turlupin et à le prier de me confier le rôle du capitaine dans ses farces. J'avais juré de délivrer le malheureux prince de Condé qui se dépérit de misère dans le numéro 14 de la tour du trésor, et le pauvre prince, enfermé par ma faute sans m'avoir jamais rien fait, est toujours à la Bastille. Ah, capitaine, hâbleur et menteur! J'avais juré de défendre, de protéger, de sauver notre petit roi Louis XIIIe. Que Dieu le garde, le pauvre petit, car s'il n'y a que moi pour le garder, il est bien mal en point. Et voici que l'émeute gronde, et voici que bientôt, demain peut-être, Guise sera roi. Guise, en voilà un qui m'a gravement insulté. J'avais juré de le pourfendre, ou tout au moins, pour abattre son orgueil, me faisais-je fort de l'enfermer pour un temps à la Bastille, puisqu'on m'en avait défié. Et Guise, comme son père, est roi de Paris. Voici que de toutes parts, on crie « Vive Guise !» Ah, capitaine, fier à bras, mat à mort !» Tel était, ce soir-là, l'état d'esprit de notre aventurier. Et, sans doute, le lecteur se le figure abattu, humilié, contrit. Non, le chevalier de Trémazin de Capestan n'était ni abattu, ni contrit. Il était de mauvaise humeur, voilà tout. Or, jamais il n'était plus redoutable que lorsque ses oreilles s'échauffaient. Plus que jamais, il redressait la tête. Son allure était crâne et batailleuse, sa démarche alerte, assurée. Ses yeux pétillaient de malice et d'intrépide volonté. D'étranges pensées éclataient dans sa cervelle enfiévrée, comme des coups de foudre. Il allait, où allait-il? À l'hôtel de Guise. Nous avons vu par quelles frénétiques acclamations le duc de Guise avait été accueilli dans Paris. Pendant deux ou trois jours, la faible royauté de Louis XIII trembla. Puis, soit que Paris se fût lassé, soit plutôt qu'un mot d'ordre eût été partout donné, le calme revint. Le duc de Guise alla trois fois au Louvre protester de sa fidélité au fils Henri IV. En sorte que, Condé et Angoulême étant à la Bastille, l'orage semblait s'être écarté pour longtemps du trône. Tout à coup, vers l'époque où nous avons repris contact avec notre capitaine, Paris recommença à s'agiter. Pourquoi ? On ne sait jamais pourquoi le peuple et l'océan se mettent... On ne sait jamais pourquoi le peuple et l'océan se mettent en colère. Capestan, depuis quelques jours, avait surpris de sourdes rumeurs au fond de Paris. Il avait vu des capitaines de la milice bourgeoise aller de porte en porte. Puis il avait vu des bandes de plus en plus nombreuses parcourir les grandes rues. Brusquement, le bruit se répandit dans Paris que Monseigneur le duc de Guise était las de la misère du peuple et de l'insolence des Huguenots. En conséquence, Monseigneur le duc devait se rendre au Louvre avec une magnifique escorte de plus de 500 seigneurs et il devait porter au roi les volontés du peuple. Or, cette démarche devait avoir lieu le lendemain de cette soirée où nous avons vu Capestan sortir de la bonne encontre, tout furieux contre lui-même et contre tout le monde. Capestan se rendait donc à l'hôtel de Guise. Ce qu'il voulait, s'il espérait pouvoir pénétrer dans cette véritable forteresse, et si, y étant entré par quelque hasard, il espérait parvenir jusqu'au duc, que des centaines d'hommes d'armes entouraient, et si, l'ayant atteint, il pensait le provoquer et le tuer, l'aventurier n'en savait rien. Des pensées de folie l'agitaient. D'une façon précise, il ne savait pas ce qu'il ferait. Mais il se sentait l'âme d'un Prométhée défiant le ciel. Tant qu'il fut sur la rive gauche, Capestan ne remarqua que cette vague agitation qu'il avait notée les soirs précédents depuis trois ou quatre jours. Seulement, en passant le long des fossés de l'hôtel de Condé, il avait vu nombre de gentilshommes enveloppés de leurs manteaux se diriger vers la grande porte. Et il nota le fait dans un coin de sa mémoire. Une fois les ponts franchis, il se trouva tout à coup en présence de l'océan démonté. Ces vagues déferlaient avec de vastes rumeurs, suivies de brusques silences pleins d'angoisse. Au fond, vers le Louvre, luisaient, au reflet des torches, les armes des compagnies suisses et des gardes françaises, pareilles à des murs élevés devant les entrées du Palais des Rois. La place de Grève, la rue de la Mortellerie, la rue de la Tissanderie, le quai de la Mégisserie, la rue Saint-Germain-l'Auxerrois, tout bouillonnait. Des flux énormes de foule, puis des reflux soudains, des bouches ouvertes, crispées par la clameur sauvage, des regards furieux, étincelants dans la nuit, des multitudes qui, par mouvements imprévus, se disloquaient, se formaient en bandes, dont les hurlements s'éloignaient pour se rapprocher ensuite, puis des bandes qui se reformaient en masses profondes, d'où jaillissaient des vociférations qui crépitaient sur le murmure immense. « Vive Guise ! Vive le libérateur du peuple ! Mort aux affameurs ! Mort à Concini ! Mort aux hérétiques, aux fagots, les parpaillots !» Capestan, pris dans la foule comme un fétu de paille par un tourbillon, allait, venait, les yeux emplis de cette effroyable vision, la tête pleine de tintements furieux. Il se laissait emporter comme en rêve. Et une de ces vagues humaines, ayant déferlé jusque dans la rue Sainte-Avoie, l'aventurier tout pantelant se vit soudain au pied des murs de l'hôtel de Guise. C'est là qu'il avait voulu venir, et c'est là que la foule venait de le jeter. Mais cette foule elle-même, alors, reflua comme la marée quand elle se retire. En effet, la colonne d'émeutiers qui avait poussé jusqu'à l'hôtel de Guise pour acclamer le duc s'aperçut que tout était éteint dans la forteresse où trois générations avaient usé leur vie à conspirer. L'hôtel était sombre, muet, fatal. Guise n'était pas là sans doute. Où était-il ? Peut-être mêlé à la multitude déchaînée par les rues. Cette idée se répandit dans la colonne que le duc devait être aux environs du Louvre. « Vive Guise ! Vive le grand Henri ! Vive le libérateur !» L'acclamation énorme battit de ses échos furieux la forteresse impassible et la bande, en tumulte, prit le chemin du Louvre. Capestan vit qu'il était seul au pied de ses murailles qui semblaient garder un secret formidable. Guise n'était pas vers le Louvre, il n'était pas dans les rues, Guise était dans l'hôtel. Dans cette vaste salle des armes, où jadis le balafré avait préparé la journée des barricades, son fils préparait la déchéance de Louis XIII. 150 représentants de la noblesse française venaient de s'y partager la besogne pour la journée du lendemain, puis s'étaient dispersés dans Paris pour répandre la bonne parole. La journée du lendemain, que devait-elle apporter au duc de Guise ? Que devait-elle apporter au roi Louis XIII ? Guise était resté avec deux de ses fidèles. Dans l'immense salle, où toutes les lumières avaient été éteintes, les rumeurs, les acclamations venaient se répercuter. Et près d'une fenêtre ouverte, Guise, haletant, pâle d'ambition satisfaite, écoutait ce grand frisson de Paris qui venait le faire frissonner lui-même. Enfin, il se tourna vers ses deux compagnons silencieux, et d'une voix rauque, « Allons maintenant, ceux de Condé, s'ils ont vu et écouté Paris, doivent être convaincus. Quant à ceux d'Angoulême, n'en parlons plus. »« C'est vrai, monseigneur, dit l'un des deux gentilshommes, Angoulême est fini, Condé s'en va mourant. Mais il n'empêche que les principaux partisans de ces deux compétiteurs vous attendent pour recevoir de vous les assurances auxquelles ils prétendent. » « Monseigneur, reprit l'autre, vous êtes attendu à l'hôtel de Condé. Il faut y aller. »« C'est à quoi je pensais, messieurs. Partons donc et rendons-nous de ce pas chez Condé. Pour ce soir, pour cette nuit encore, il nous faut ruser et promettre. Demain, nous verrons à tenir. Et bien entendu, c'est d'abord à ceux qui, dès la réunion de la pivoleuse, ont été pour moi que je songerai à tenir. Pour eux, mes promesses seront sacrées. » Guise demeura un instant sombre et pensif, puis il leva son front sur lequel flamboyait cette joie terrible qu'il est donné à si peu d'hommes de connaître. « Demain, gronda-t-il avec un accent de puissante ivresse, Demain, c'est du Louvre que j'écouterai ces vivas frénétiques des Parisiens. Demain, c'est demain que se réalisera le rêve de mon père. C'est demain que la maison de Guise prendra sa revanche. C'est demain que les merlettes de Lorraine remplaceront sur le fanion les lys de France qui achèvent de se flétrir. Demain. Allons, messieurs, à l'hôtel de Condé. » Capestan vit ces trois gentilshommes qui sortaient de l'hôtel de Guise. Il les vit se diriger à grands pas vers le centre de Paris. Et, tout de suite, il reconnut le duc de Guise. Il le reconnut d'instinct. Il le sentit, il le flaira. Il le reconnut à sa haute stature, à son port de tête insolent, à sa façon de marcher entre ses deux compagnons, un peu en avant, à cette attitude d'orgueil que ne peut éviter aucun des hommes que leurs semblables choisissent pour maître. Le cœur de l'aventurier se mit à battre, tic-tac, à toute volée. Au loin sonnait le tocsin. Le cœur de Capestan sonna le tocsin et le rappel. Lui aussi, il sentit une flamme brûlante envahir son front. Lui aussi, il se redressa sous la poussée d'un immense orgueil. Des pensées éperdues battirent leurs ailes dans son imagination exaspérée. Son âme se haussa jusqu'à la grandeur tragique des événements qui se déroulaient. Il eut le geste frénétique d'un capitaine sublime et à lui-même, il se murmura « Si cet homme tourne vers le Louvre, je le tue. En ce moment, les destinées de ce grand royaume sont dans la main de l'aventurier sans sou ni maille, ni logis, ni raison d'être au soleil. En ce moment, c'est la rapière du capitaine qui va tourner cette page de l'histoire de France. » L'instant d'après, il eut un long soupir. Ses traits convulsés se détendirent. Guise ne marchait pas au Louvre. Guise se frayait un chemin à travers la foule échevelée, hurlante, et bientôt gagnait le pont, le manteau sur les yeux pour n'être pas reconnu. Bientôt, les ponts étaient franchis et, la cité traversée, la rue de la Huchette dépassée, Guise remonta tout droit la rue Hautefeuille. Capestan se frappa le front. « Il va à l'hôtel de Condé, murmura-t-il. Ces ombres que j'ai vues se glisser tout à l'heure vers la grande porte de l'hôtel, ce sont les amis de Monsieur le Prince. Cela va être ici la foire aux fidélités et au dévouement. Deux ou 300 bonnes épées sont à l'encan. Il y a un acheteur. Pauvre Condé qui se dépérit là-bas de misère. Il ne se doute guère que ce soir, son cousin de Guise achète en bloc toute sa maison. » L'aventurier avait laissé prendre une certaine avance aux trois gentilshommes. En effet, la rue était paisible. Derrière lui, vers delà la Seine, Paris grondait et il entendait le furieux ressac des vagues humaines. Mais là, le silence était profond. Il lui semblait s'enfoncer dans un gouffre de silence. Capestan se demandait « Que vais-je faire ?» Au moment où Guise, ayant traversé la place de Grève, entrait sur le pont Notre-Dame, un homme qui, depuis un instant, le suivait pas à pas, le bouscula, comme s'il eût été poussé sur lui par un mouvement de foule. Une seconde, Guise lâcha son manteau et son visage demeura à découvert, éclairé par le reflet des torches qui illuminaient cette scène. L'homme grommela une excuse et disparut. Il fit un signe à deux autres, lesquels, à leur tour, répétèrent le signe à trois hommes qui, comme les premiers, s'enveloppaient de leur manteau jusqu'au nez. La bande se trouva réunie, franchit la cité, laissa Guise et ses compagnons s'engager dans la rue de la Huchette, tint conseil quelques secondes, puis se mit à remonter en courant la rue de la Harpe, suivant ainsi un chemin parallèle à la rue Hautefeuille et aboutissant au même point l'hôtel de Condé. Ses hommes, c'étaient Rinaldo et ses compagnons. « Que vais-je faire ? » se demandait Capestan. « Dois-je attaquer ? Vaut-il mieux que j'attende sa sortie de l'hôtel de Condé ?» L'attaquer, ce serait tôt fait, Corbac, s'il ne s'agissait que de risquer ma peau. Et puis, ils ne sont que trois. Mais il ne s'agit pas, ce soir, de ferrailler sans savoir au juste qui va rester sur le carreau. Il s'agit de transformer la journée de demain. Je veux que mon petit Roitelet vive. Et puis, ce gaillard-là m'a insulté. Un coup d'épée, ce n'est pas assez pour payer l'insulte. Je veux le fourrer à la place du pauvre Condé qui se meurt de misère. Je veux... Ce monologue fut brusquement interrompu par des cris, des jurons, des cliquetis d'épées. « Oh, oh !» gronda Capestan en essayant de percer l'obscurité de son regard. « Voici mon Guise attaqué. Corbac, comme ils y vont, les gaillards! Quel coup! Si je laissais faire, tout serait fini. » En même temps qu'il disait « si je laissais faire », il s'élançait la rapière au poing et tombait comme l'ouragan sur les assaillants en hurlant « Courage, monseigneur, on vient à vous !» Des malédictions, des imprécations éclatèrent. « Tripe du diable !» rugit une voix. « Ventre du pape !» hurla une autre. « Oh, vociféra Capestan, je connais ces jurons-là, moi, je connais ces voix. C'est vous, mes agneaux ?» Ah ça, mais plus on vous tue, plus vous êtes incorrigible. » Il avait saisi sa forte rapière par la lame et se servait du pommeau comme d'une masse. Quatre hommes étaient à terre, deux des assaillants et les deux compagnons de guise. Le duc, appuyé du pied à un mur, l'épée à la main, silencieux et sombre, parait les coups que lui portaient encore les quatre spadassins demeurés debout. La foudroyante intervention de Capestan mit fin à la bagarre en quelques instants. Les spadassins crurent peut-être à quelque diable déchaîné dont le moulinet faisait au duc de Guise un rempart infranchissable, ou peut-être pensèrent-ils qu'ils avaient affaire à toute une troupe. Capestan les vit s'enfuir, tout effaré, tout saignant, sacrant et jurant, et il accompagna leur déroute d'un éclat de rire qui ressemblait à un hennissement de fanlair. Son premier soin fut de se baisser et d'examiner les quatre hommes étendus. Ils étaient morts tous quatre. Deux d'entre eux étaient les deux gentilshommes qui avaient escorté Guise. Chacun d'eux avait la gorge trouée d'un coup de poignard. Les deux autres ne portaient pas de blessure apparente, ils avaient été assommés par le pommeau de l'épée de Capestan. C'étaient Pontrailles et Bazorge. L'aventurier les reconnut. « Bon, dit-il, le Rinaldo n'y est pas. Tant mieux, mort diable, j'en eusse été fâché de le tuer tout bêtement d'un coup de masse. Le drôle vaut mieux que cela. » Voyons, il me semble que j'en reconnus aussi deux parmi les morts de l'auberge du Panier Fleuri. Avec ces deux-là, cela fait quatre. Si je sais compter, il me reste donc trois dettes de sang à payer. Bon, bon, cela pourra venir. » Guise avait remis son épée au fourreau. Une minute, il contempla froidement les cadavres de ses deux compagnons, deux fidèles amis morts pour lui, en se jetant au-devant des coups qui lui étaient destinés. Peut-être une rapide émotion le fit-elle frissonner. Mais se remettant aussitôt, « Tels sont les hasards de la guerre. N'y pensons plus. « Monsieur, ajouta-t-il tout haut, je vous dois la vie. Je ne l'oublierai pas. Si vous voulez bien entrer avec moi en cet hôtel où je suis attendu, je serai heureux de vous offrir la récompense due à votre courage. » Capestan se sentit pâlir d'humiliation. Cette offre hautaine de récompense le froissait dans sa fierté, dans tout ce qu'il y avait de délicat sous ses allures parfois exorbitantes. Mais, à ce moment, une idée soudaine flamboya dans son esprit. Il frémit jusqu'à l'âme. Son œil pétilla de malice. « Monseigneur, vous ne me devez aucune reconnaissance, dit-il, car j'avais été posté ici pour surveiller votre arrivée et vous défendre en cas de besoin, et enfin de vous guider. » Me guider ? Fit Guise étonné. Oui, monseigneur, des avis parvenus dans la soirée ont fait changer le lieu de la réunion. Ces messieurs sont rassemblés près d'ici, dans une auberge, où ils vous attendent. Au Grand Henri, fit vivement le duc, c'est là que les gens de Condé se réunissaient. Oui, monseigneur, c'est justement là, et si vous voulez bien m'accompagner. Le duc de Guise n'avait aucune raison de se défier de cet homme qui venait de le sauver. Le changement du lieu de réunion était parfaitement plausible et l'attaque même des gens de Concini prouvait que l'hôtel de Condé était surveillé. Ce fut donc sans la moindre hésitation qu'il répondit « Marchons et hâtons-nous. » « Vive mon petit Roitelet !» rugit en lui-même l'aventurier dont le cœur se mit à bondir.